réseau beaucoup plus étendu, qui est le réseau des satellites, qui va être transformé par sur le pupitre, vous voyez ici l'île de France avec un orage qui arrive, qui est détecté par satellite. Il s'agit de nouveaux instruments qui permettent de mesurer, de capter les gouttes d'eau, c'est assez intéressant. Vous avez un type au téléphone qui vérifie ces informations, donc c'est tout ça, ça produit le temps de Paris. Si vous dites, ah oui, mais attention, il y a un temps de Paris dehors, vous ratez précisément ce qu'il faut faire pour produire le temps de Paris dehors. Et pour pouvoir produire le temps de Paris dehors, il faut être dedans. Il faut être même intensément relié au réseau, sans quoi vous perdez le temps de Paris. Si le cas ne téléphone pas au bon moment, si le satellite est interrompu, le temps de Paris disparaît. Chose étonnante, vous le voyez ensuite avec son crayon rouge, qui est en train de dessiner les isobars pour faire l'anticyclone, parce que l'anticyclone, lui, c'est une interprétation extrêmement élaborée du temps. Il n'est pas produit automatiquement. La carte de l'anticyclone, l'anticyclone lui-même est une invention des Suédois au début du XXe siècle, il y a toute une histoire d'invention de l'anticyclone. Ça dépend d'un type de cartographie. Maintenant, je pense que ce livre a 4-5 ans, c'est peut-être déjà automatisé, mais sans doute, parce que c'est une opération d'interprétation assez fine. D'arriver à dessiner, à partir des informations qui sont produites, la carte météorologique. Et ensuite, évidemment, elle va être rebalancée, et remise en scène, remoulinée à TF1. Vous voyez que le cas du vote était un cas où on se disait, c'est pas très compliqué à comprendre, puisque le vote est un artifice humain, juridique, donc c'est pas très étonnant que le grand et le petit soient dépendants d'une technique de représentation qui passe par des papiers, etc. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire admettre, du moins pour une minute de cet exposé, c'est que c'est vrai aussi des éléments naturels. Si vous dites, oui, mais il existe bien un cadre naturel à l'intérieur duquel se situe la ville, le temps de Paris, vous ratez de nouveau la question de la mise, du changement et du dimensionnement. Le dimensionnement du temps de Paris dépend lui aussi crucialement de la multitude et de la série des instruments de Météo France. Alors évidemment, si vous dites, oui, moi, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est le temps, parfait. Donc, mais qu'est-ce que vous faites quand vous dites, ce qui m'intéresse, c'est le temps d'Île-de-France? Vous regardez la télé. Ou bien vous ouvrez votre journal à la météo. C'est-à-dire que vous continuez un cran plus loin le réseau d'inscriptions dont je vous montre ici juste quelques écrans parce que je n'ai pas assez le temps de vous montrer tel zénon, toutes les étapes intermédiaires, mais chaque étape est intermédiaire. Ça a toute la différence. Si vous dites que le temps existe en dehors, pas de problème, les étapes ne comptent pas. Vous pouvez oublier finalement la plupart des étapes. Si vous dites, attendez, le temps circule aussi à l'intérieur d'un réseau et dépend de ses instruments, tout compte. Chaque détail compte, chaque amélioration des satellites, chaque détail de la façon de dessiner l'anticyclone compte. Et quand vous dites tout compte, il faut l'entendre dans tous les sens du terme, en théorie sociologique, tout compte, donc il va falloir que je suive tout ça, mais en théorie politique, c'est que tout compte. Et donc toutes les différences comptent aussi. Et vous voyez émerger aussitôt saillir dans la représentation une multitude qui aurait disparu complètement si vous dites, bah oui, il y a un temps, puis peu importe, on ne va pas se mettre à s'intéresser à tous ces bons hommes de Météo France qui sont des... qui sont bloqués dans leur bureau et qui ne voient rien sinon des écrans d'ordinateur. C'est au contraire d'eux que dépend cet affaire. Puisque je pense que ce point commence à être compris, qui n'est pas toujours saisissable tout de suite. J'en donne un troisième exemple. Cette fois-ci, c'est le bureau de Mme Bessal à l'école des mines. Question intéressante. Moi, ça m'intéresse. Comment vous savez... L'organigramme, vous êtes professeur à l'école des mines, comment vous savez la salle où vous devez aller aux mines? Tous les gens raisonnables ne se posent pas. Personne ne se pose, c'est une question aussi seule. Mais moi, oui. Pourquoi? Parce que de nouveau m'intéresse le mécanisme par lequel le grand et le petit vont se trouver connectés sans passer par la notion de grand et de petit. Et vous allez pour ça dans le bureau de Mme Bessal, pour savoir quelle salle elle va m'attribuer, ou quelle salle on a attribuée dans cette maison pour cette exposée. Vous n'allez évidemment, elle ne va pas non plus regarder dehors. Elle va regarder un écran sur lequel elle a un organigramme où la salle que vous allez occuper est une petite coche. Et là, un petit principe de géométrie assez simple, c'est que la même salle par la même personne ne peut pas être utilisée. Donc s'il y a deux personnes dessus, elle le voit tout de suite. Mais ça ne suffit pas du tout. Il faut que le réseau auquel qui connecte ce bureau de Mme Bessal soit étendu. Étendu par quoi? Par son temps du petit au grand. En tournant comme des termites, en quelque sorte, si vous permettez la métaphore des termites, en allant quadriller le réseau qui va relier maintenant par une série d'intermédiaires que je ne vais peut-être pas vouloir multiplier. Voilà le bureau de Madame Bessane. Elle, si elle a une fenêtre. Mais elle ne regarde pas dehors pour savoir où sont les salles. Elle regarde son ordinateur. Son ordinateur, et c'est ça qui est intéressant pour cette affaire de multiplicité, peut être lui-même interrompu. Il peut n'y rien avoir sur son ordinateur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va construire de nouveau, comme dans le cas de la météo, comme dans le cas du vote, un réseau d'inscriptions, un réseau qui peut être infiniment étendu, mais dont je vais vous donner tous les exemples. Par exemple, ici, voilà son organigramme avec les coches à la main. Ensuite, voilà les salles de cours. Mais ça ne suffit pas d'avoir des salles de cours. Il faut encore avoir des numéros sur les salles de cours pour savoir que V107 correspond au V107 qui est inscrit sur l'AFR. Vous allez dire que ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, on sait ce que c'est que le grand. Non. Le point que je veux faire, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le grand. Et que donc, il est très intéressant de comprendre comment le bureau de Madame Bessal contient, sans le contenir par la, comme une matrioshka, elle n'est pas une grande matrioshka dans une petite matrioshka, elle est un point relié. Et donc, c'est la connexion et le type de connexion, et pas la taille, qui fait la différence. Donc, vous voyez aussitôt que si je tire la conséquence politique de ce petit point de sociologie, Monsieur Chirac n'est pas plus grand que nous, il n'est pas physiquement la grande matrioshka à l'intérieur duquel les petites matrioshkas, il est relié ou pas. Relié ou pas, c'est ce qui va maintenant remplacer le grand et le petit. C'est la qualité de la relation, le type de vecteur qui se transporte, et non pas la taille. Donc vous voyez tout de suite que les différences vont se multiplier dans le deuxième cas, alors qu'évidemment, dans le fantasme du grand, elles disparaissent aussitôt. Ceci dit, on n'a pas obligé d'être obsédé par des questions aussi myopes que celle de savoir que V107, ça correspond à V107 qui est sur mon emploi du temps, qui est elle-même au V107 qui est sur l'ordinateur de Madame Bessal. Mais en même temps, est-ce qu'il existe de plus grands problèmes que cela? Vous savez, Garfinkel, qui est le grand sociologue américain, dans son dernier livre, a cette très belle phrase, il dit que les sociologues, d'habitude, et les politiques s'occupent de grands problèmes, d'infrastructures, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a un problème plus grand que celui qui est, je le traduis rapidement, mais presque littéralement, où est la boulangerie? Là, avec un mouvement du menton. Là, avec un mouvement du menton. C'est-à-dire que le social tient, c'est la grande idée de Sartre aussi, par le petit, à part le grand. Le grand n'est qu'une légère amplification, une légère simplification du petit. Donc vous voyez que la topographie est très différente. La preuve, c'est que si j'enlève, par une méchanceté, j'enlève le V117 de cette porte, eh bien, les professeurs et les élèves vont se mettre à errer dans les couloirs sans savoir où ils sont. En fait, non, parce qu'ils se rappellent sans regarder le numéro V117. Mais ici, c'est le début de l'école, le début de la classe. J'ai erré ici, heureusement, M. Charbon m'a amené dans cette pièce, mais A56, ça ne me disait rien du tout. Donc, si vous aviez dit non, A56, c'est une fausse pancarte, j'aurais erré. C'est des petits détails. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de plus grand que ces détails-là pour obtenir la différence de taille. Un bureau qui n'est plus relié par ces séries de connecteurs, il est localisé définitivement, c'est-à-dire il n'est plus connecté. Et le petit, c'est d'être pas connecté. Le petit n'est pas un rapport de dimensionnement, de pas de matrioshka, mais un rapport de connexion. Donc ça permet de définir deux termes, dont deux paradigmes, je crois que vous avez compris maintenant l'argument, je peux passer vite. Un modèle par contexte et interaction, dans lequel le grand, en quelque sorte, se trouve plus grand que le moyen, et le moyen plus grand que le petit, donc une espèce de hiérarchie, et un modèle hiérarchique, que j'appelle un modèle plat, parce qu'évidemment on va obtenir, et ça je pense c'est un résultat qui est assez proche de la platitude de la notion de multitude, platitude ici prise dans un sens positif, et on n'a pas justement la transcendance du social pour qui va intervenir, un modèle de platitude dans lequel le bureau de Madame Bessal, la salle, mon organigramme, mon emploi du temps que je reçois et ce que voient les élèves se trouvent en quelque sorte côte à côte. Si vous obtenez un effet d'inclusion, c'est qu'un vecteur, un instrument, une inscription a circulé. Et donc toute l'attention va porter sur les différences entre les différents vecteurs et les différents véhicules. Vous changez d'attention et la position même, la forme même du social va changer d'attitude. Alors je vais pas, j'en ai comme ça plein. Là c'est l'eau. Ah, oui, parce que à Paris, l'une des grandes questions de Paris, c'est l'eau. Il y a deux réseaux d'eau, hein, nord et au sud, et là, c'est un endroit secret d'ailleurs, il ne faut pas dire où c'est, tenu secret, dans lequel vous avez toutes les pompes de Paris visualisables sur un seul ordinateur. Et là, il ne s'agit pas de visualisation au sens d'information, mais d'action, c'est-à-dire c'est des actuateurs, comme ils disent, qui permettent d'ouvrir et de fermer toutes les pompes de Paris en fonction de... C'est comme ça qu'ils savent, par exemple, c'est l'endroit où j'ai découvert qu'on savait exactement le moment de la fin d'une mi-temps de football, parce que tout le monde se lève et va faire piquer les ados. Et ça se marque par un brusque monté dans toutes les pompes. Et il faut que les gars qui sont là, aussitôt, envoient un peu plus de pression. Ils pilotent leur réseau d'eau de Paris, un peu comme une Formule 1. Ils ont plein d'anecdotes à raconter sur les systèmes d'harmonie, de disharmonie entre les sécheresses, plus les pollutions, plus etc. C'est des endroits merveilleux de Paris. Ce sont ce genre d'endroits. Et donc, là il s'agit donc, vous avez compris maintenant l'argument, je voudrais introduire le terme d'oligoptique. Par opposition panoptique, parce que l'argument panoptique, nous l'avons tous est familier maintenant grâce au travail de Foucault, qui a lui-même fait un Bentham. Mais panoptique a une difficulté, c'est que panoptique suppose effectivement qu'on va voir tout. Par exemple, on va voir la ville de Paris comme un tout. Et dans le livre, on s'amuse à montrer que du début à la fin, il n'y a pas un endroit où on peut voir Paris comme un tout. Même dans l'endroit le seul endroit vraiment presque totalisant, je vais vous le montrer. Tout à l'heure, on ne voit toujours pas Paris dans un tout. Et donc, je propose cette notion d'oligoptique. Oligo, ça veut dire peu. On voit peu, mais on voit bien. Les gars qui voient l'eau à Paris ne voient pas le gaz, ne voient pas l'électricité. On l'a vu aussi, on a été voir aussi le gaz, l'électricité, ça. Mais ils ne voient que l'eau. Mais ils le voient très bien. Très bien, à condition qu'ils soient connectés. C'est-à-dire que les réseaux qui vont de toutes les capteurs et qui envoient et qui vont à toutes les pompes soient lui-même connectés. Vous avez eu apparemment un exposé précédent sur les réseaux, donc vous comprenez ce que ça peut vouloir dire. Et il est très intéressant d'étudier cette notion d'oligoptique, parce que justement, elle calme la paranoïa possible avec la notion de panoptique, ou la mégalomanie. Quand on a un panoptique, qu'on soit vu par le panoptique ou qu'on soit dans le panoptique, on pourrait tenter, disons, si vous êtes dedans par la mégalomanie, je veux tout voir, et si vous êtes en dehors, je suis complètement vu par la paranoïa. Or, les oligoptiques voient très bien, mais très peu. Ils voient juste un élément, un type de circulation à travers Paris, par exemple l'eau, mais un autre verra le gaz, un autre verra l'électricité, etc., sans qu'il y ait évidemment recoupement de ces différentes visions. Un cas qui peut vous paraître extrême, c'est le lieu le plus totalisant que j'ai trouvé à Paris, ça m'a mis longtemps à rentrer à l'intérieur. C'est la chambre de commandement de la préfecture de Paris au troisième sous-sol de l'île de la Cité. C'est un lieu tout à fait intéressant parce que ça ressemble curieusement à un panoptique au sens de Foucault ou de Bentham, puisque vous avez toutes les caméras qui sont des caméras publiques. Vous avez au milieu ce grand écran qui est un système informatique qui est le cadastre amélioré qui permet de repérer l'ensemble des informations sur la circulation dans Paris, puis vous avez tous les écrans qui correspondent à à la fois à des informations qui sont relayées par les policiers sur le terrain, et en même temps à ce qu'ils appellent des routines automatisées, qui sont des réflexes en quelque sorte, qui savent pouvoir mettre en place dès que, par exemple, sortit le président de l'Elysée, parce qu'il y a toute une série d'actions qui sont mises en place à des kilomètres en avance. Vous savez que Paris est une ville complètement congestionnée, Paris est en thrombose permanente, et donc toute action quelconque, que ce soit une manifestation, un déplacement, une grève, n'importe quoi, aussitôt, c'est là que ces routines se mettent en place. Ils savent qu'à chaque fois une manifestation, ils savent exactement où est-ce qu'il faut envoyer les policiers, parce que c'est toujours la même agence de voyage turque qui se trouve démolie. Donc ça fait rentrer à l'intérieur, on avait dit. On était là au moment du voyage du pape, il y avait 50 pages de routine, ils savaient exactement ce qu'allait se passer. Non, pas exactement ce qu'allait se passer, justement. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans cette affaire. C'est que même là, c'est un oligoptique. Et j'ai trouvé cette image tout à fait stupéfiante. C'est le gars qui joue pas au Monopoly, bien que ça ressemble furieusement au Monopoly. Il est effectivement avec des petites figurines de Monopoly, en train d'essayer de réabsorber d'une façon sensible pour une vue axonométrique à peu près réaliste, la dispersion des forces de police pour un déplacement de chef d'État. Je me rappelle plus quel est le chef d'État qui arrive. Donc, il a tous les écrans, les informations, etc., mais tout ça, ce n'est pas suffisant pour absorber la notion très simple de comment Paris va-t-il se trouver bouché sur 3 ou 4 kilomètres? Donc, comment arriver à anticiper, en quelque sorte, de façon sensible, cette petite différence? Vous voyez, ça, si je vous dis ça, c'est Big Brother, vous direz oui. Mais si je vous montre ça, vous vous dites, ce Big Brother, il voit pas beaucoup. Il peut... Mais par exemple, le plus étonnant, en plus de cet exemple, c'est l'interdit qui...